Ariane sur l'archipel interdit. Une création sonore de Radio Utopia, librement inspirée du roman Island d'Aldous Huxley et réalisée avec les habitants et les habitantes du territoire Vézère-Monédière-Mille-Sources avec le soutien des ateliers Médicis. Épisode 1. La vie grise.
Hello. Hi. Moi, Ariane 15, lassée de l'ère post-virtuelle du Verseau marquée par le Covid-51, ai décidé de prendre des vacances. Pour commencer, à défaut de Covid, je me suis plongée dans Ovid. Et ma foi, le bassin méditerranéen, toute cette eau, toutes ces îles, le soleil, ça m'a donné envie de me barrer à Naxos, pour de vrai. Pas via l'application Google Earth 3D sur lentille de contact. Eh oui, c'est ça l'ère du Covid-51. Toute ta life dématérialisée, toute ta bouffe imprimée en un battement de cils, les vaccins à puce branchés directement sur ton Linky, et bien sûr, le passage à la 50G. Bon, moi je suis un peu vieux jeu, j'en suis resté à la 12G. N'empêche que ça a vraiment aggravé mon hypersensibilité électromagnétique. Depuis le passage à la 50G, j'ai la cervelle tout embrouillée et, sporadiquement, me parviennent des bribes de radio utopien. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de voyager d'ailleurs. Là encore, pour voyager, je reste à la traîne du grand progrès. Je me déplace sur les fréquences Hertz, complètement has-been. Donc, je disais que je partais en vacances pour échapper au virus. Non plus celui de la peste noire, mais celui de la vie grise. On aurait pu se dire « Oh, un nouveau fléau, il se passe quelque chose !» Mais même pas. On se dit qu'on met enfin le doigt sur l'irrationnel, que la fiction rejoint la réalité. Pensez-vous. Tout partout pareil. Et par-dessus le marché, on continue de se multiplier. Des millions et des milliards de gens. Et puis un jour, clic ! Derrière mes lentilles de contact 3D, tous se transformèrent en vers. Ces petites larves qu'on voyait dans le temps sur la nourriture avariée. Les visages étaient les mêmes, les vêtements les mêmes, les masques les mêmes. Et pourtant, ils étaient tous devenus des vers. Pas même des vers réels, seulement des fantômes de vers. Seulement l'illusion de verre. Et j'étais l'illusion d'une spectatrice de verre. J'ai vécu pendant des mois dans ce monde de verre sans le moindre intérêt pour ce que je faisais. Sans le moindre plaisir ou le moindre goût. Complètement indifférente et impuissante. Oh non, ça recommence. Trop d'interférences. C'est ça de refuser de se faire paramétrer.
C'était Radio Utopia.
Y'a rien à faire, mes ondes sont devenues obsolètes. Ouh là là, ça s'emballe trop. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah!
Je vais vous donner des exemples.
Je tombe. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est?
Ah!
Un serpent! Un serpent! C'est pas possible! Ah, je croyais que ça n'existait plus.
Telle utopie est un idéal irréalisable qui sert quelquefois pour certaines personnes de fondation à sa vie. Utopia, en 1532, a été mis en page par Thomas More. C'est forgé sur le grec du nom. Et de topos du lieu, ça veut dire que ça peut ne se faire en aucun lieu. Donc c'est vraiment irréalisable. Donc c'est un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Et c'est différent quand même du bonheur, c'est heureux quoi, c'est un idéal. C'est impossible. À part une fiction quoi. La République de Platon, c'était une utopie. L'utopie de Fénelon dans Télémaque. Au XIXe siècle, c'est un idéal, c'est une vie politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Par exemple, la paix universelle, la fraternité, le progrès pacifique, les droits de l'homme, l'égalité naturelle. Ça a été dit par Romain Rolland. C'est la conception ou un projet qui paraît irréalisable. C'est une chimère, une illusion, un mirage, un rêve, une rêverie. Hugo disait que l'utopie, c'est une rêverie d'inventeur, songe creux. Pour vous dire que c'est vraiment irréalisable. Il y a Gaudin qui s'est inspiré de Fourier, qui a créé des phalanstères.
Non, le familistère.
Le familistère, mais c'est un phalanstère.
Bon. C'est Fourier.
Il y a Thoreau, bien sûr, dans Walden, qui s'est inspiré aussi de ces philosophes-là. Il y a le socialisme utopique d'Engel. Fourier qui a décrit un système idéal qui analyse des réalités économiques. L'utopie, c'est quand même une vue économique et sociale. Ça peut être un monde sans guerre. Moi, personnellement, on peut dire qu'on peut supprimer toutes les armées, toutes les frontières. La spiritualité peut aider à vivre sans souffrir, d'imaginer l'utopie. Pour ça, quelquefois, on fait allusion à des idéaux spirituels, comme le bouddhisme. Mais ça aide à créer une utopie, mais ce n'est pas vraiment l'utopie. Voilà, alors l'utopie consisterait à mettre en place des sociétés ou des groupes à vivre en harmonie, toujours avec des valeurs morales. La devise de notre République française est une utopie, liberté, égalité, fraternité.
Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia, la radio dans vos rêves.
Toujours dans l'émission sur l'utopie, on vient d'entendre Frida. Merci Frida, merci beaucoup. Alors, je suis aussi avec Assine Lage. Bonjour Assine Lage, je crois que vous êtes venu aussi pour donner un avis sur l'utopie.
La question qui vient immédiatement à l'esprit, je pense que vous la posez tous, c'est comment expliquer que ce qui apparaît comme un idéal irréalisable ait autant de force à travers l'histoire. Oui. Parce que ce qui est impossible, quoi, c'est tout. Puis une fois qu'on s'est aperçu que c'est impossible, on passe à autre chose. Oui. Et là, bizarrement, ce rêve irréalisable, il continue de travailler les esprits, les époques historiques, jusqu'à aujourd'hui.
Faut pas, on est tous heureux dans le monde. Donc du coup, on se tape pas, on se dispute pas, on est amis.
1516, donc publication du roman Utopia par Thomas More, et c'est la première fois qu'apparaît le mot. Le mot donc apparaît à partir du XVIe siècle, avant il n'existe pas. Est-ce qu'il y a des projets utopiques avant? Oui, c'est bien sûr. Rabelais, vous pensez à Rabelais. Hein, Pantagruel, oui. Gargantua, l'abbaye Thélème, fait ce que voudra. C'est la belle définition de l'anarchie. On peut faire tout ce qu'on veut, sauf que comme le disait Yankelevitch, à partir du moment où on fait tout ce qu'on veut, le pire n'est jamais loin. Bon, à partir de là, le texte d'Utopia de Thomas More se compose de deux parties. Hein. Une première partie qui est une critique féroce, vraiment très féroce, de la société anglaise de son temps, autour de deux points, essentiellement, la question de la propriété et la question de la monnaie. Et donc la propriété est apparue à un moment donné, et elle apparaît à Thomas More, comme étant un obstacle au bien-être des gens. Rousseau dira exactement la même chose. Le premier qui enclôt un champ et dit « ceci est à moi » fut le véritable fondateur de la société civile, que lui épargnait de malheur au genre humain, celui qui, arrachant les piquets et comblant le fossé, lui dit « n'écoutez pas cet imposteur, vous êtes perdu si vous oubliez que la terre est à tous et je ne sais pas la suite. »
Je suis celle dans ton rêve parfois. Je suis celle qu'on ne touche pas. Je suis l'histoire non écrite.
La deuxième partie de Utopia, après la critique de la société anglaise, c'est donc ce projet d'une île qui n'est nulle part, qui s'appelle Utopia, donc qui est un peu la mise en œuvre des idées de Thomas More, suite à un récit qui lui a été fait par un marin, qui aurait, etc. Il y a toute une dimension fictionnelle.
Île où l'on ne prendra jamais terre. Île où l'on ne descendra jamais. Île couverte de végétation, île tapis comme des jaguars, île muette, île immobile, île inoubliable et sans nom. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Vous écoutez Radio Utopia.
Ma question en tant que philosophe, c'est quel est le contenu conceptuel du mot utopie ? Moi, je pense que le mot utopie est lié fondamentalement au projet de Thomas More et à ceux qui l'ont repris. Alors, est-ce qu'on peut tout inclure, c'est-à-dire inclure des rêves, des projets d'évasion, de l'imaginaire poétique ? J'en suis pas totalement sûr. Moi, je pense que l'utopie est liée à un projet politique, de transformation de la société,
économique
parce que ouais, le politique aussi.
Moi aussi, je pense.
Oui, mais politique et économique, de création d'une société idéale.
Oui,
et donc, de ce point de vue, on peut considérer qu'il est irréalisable. Et d'ailleurs, la critique la plus féroce qui a été faite, l'a été dans les années 80 du siècle dernier, lorsque on a fait le procès, alors en bonne et due forme, en règle, du communisme. Hein, avec le passé d'une illusion, de Furet, le livre noir du communisme, et ainsi de suite. Donc il y a eu plein d'ouvrages qui sont parus pour dire « Maintenant, ça en est fini des utopies ». Et là, toujours, on parlait d'un livre qui s'appelle « Le principe responsabilité » d'Hans Jonas, qui a réglé son compte à ce qui était le projet utopique d'avant, et qui s'appelait le principe espérance d'Ernst Bloch, qui reprenait donc, la vulgate marxiste de la possibilité d'une société idéale dans les temps à venir. Et donc, à partir des années 80, et ça a coïncidé avec l'avènement de l'ultralibéralisme, Reagan, Thatcher, etc., on assiste à une fin, vraiment une mise à mort du projet utopique, qui va renaître, me semble-t-il, en ce moment. C'est pas étonnant d'ailleurs si vous en reparlez, qui renaît en ce moment, je dirais, à la faveur de courants, par exemple, dans l'écologie. Avec
on va faire une petite pause écologique, on se retrouve tout de suite après.
Celui qui ne se lave jamais les idées, ses rêves sont mauvais. Avec Shampoo-topia, mettez de l'utopie à vos rêveries.
Shampoo-topia.
Le vent décoiffe les cheveux et le rêve les idées bien peignées. Avec Shampoo-topia, mettez de l'utopie à vos rêveries. Shampoo-topia. Shampoo-topia.
Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Utopia, on se retrouve sur le plateau pour nos interviews de la semaine. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'utopie. Et je rappelle, nous sommes avec Hacine Lage. J'ai lu aussi dans votre dernier ouvrage, Hacine Lage, une référence à Jonas. Et que vous pouvez nous en dire un peu plus et préciser cette idée.
Le livre de Jonas, qui s'appelle « Le principe responsabilité », c'est la réponse qui consiste à dire « Il faut sortir de l'utopie, maintenant on passe aux choses sérieuses ». Et les choses sérieuses, c'est de prendre bien la mesure des possibilités de détruire la vie sur Terre, que l'avenir n'est absolument pas tracé d'avance, etc. Et par conséquent, il faut aujourd'hui être responsable à l'égard des générations futures et prendre une série de dispositions, évidemment, dans le domaine de la gestion des ressources de la planète.
Il n'y a que des forêts, des montagnes, des jungles, enfin, la jungle, la savane, des adultes, et il y a aussi la mer, les océans, mais il n'y a pas de ville, ni de voiture, pour pas polluer en fait.
La position entre principe espérance, principe responsabilité, je crois, a marqué un tournant en sonnant le glas un peu des utopies, on va dire, anarchistes, marxistes, communistes, etc., au nom d'une sorte de nouveau réalisme consistant à penser que, ça y est, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Et ça a coïncidé également, évidemment, avec le fait qu'on ait tourné la page, selon certains, de ce qui a pu germer au niveau de mai 68. Hein. Et donc, toute une série de penseurs français se sont rangés dorénavant une sorte de réalisme politique consistant justement à dénoncer comme dangereuses toutes les formes d'utopie. Oui, hein, si on reprend les textes d'un certain nombre de gens, l'utopie est dangereuse parce que justement elle nous rend complètement irréalistes, elle ne fait pas voir les dangers, dangers du totalitarisme, dangers à l'égard de la prise de conscience de la nécessité justement de sauver notre planète et la possibilité d'une vie pour les générations futures.
La nostalgie, c'est quand on regarde derrière soi, dans le passé, alors que là, c'est pas dans le passé. C'est des rêves qui peut-être ne se passeront jamais, mais où on espère que ça va se passer.
Mais alors dites-moi, Hacine Lage, l'utopie aujourd'hui, ce serait vraiment le dernier combat de l'écologie ?
La force qui a été celle du communisme, au moins au départ, chez ces théoriciens, c'est qu'elle comportait une dimension politique, philosophique, sociologique, économique, extrêmement forte. Moi, j'ai tendance à dire que l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage.
Une cabane. Je construirais une cabane avec les branches que j'ai là dans la forêt. Sinon je dors dans l'herbe.
Donc l'exploitation me paraît être encore aujourd'hui... Alors, où trouver de l'utopie aujourd'hui ? Je crois qu'on peut la trouver déjà dans le combat féministe. L'individualisme, de chacun pour soi, qui est son idéologie spontanée, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se sauver soi-même avant de penser aux autres, etc. C'est ça qu'il faut combattre. Donc si l'utopie a une chance, en quelque sorte, de renaître, c'est d'abord en combattant cette espèce d'état d'esprit qui veut que chacun se sauve lui-même sans égard ou sans souci avec les autres. Et donc créer du commun, c'est d'abord créer des liens d'amitié, des liens de... Alors s'il y a des textes vers lesquels il faut aller se tourner, c'est peut-être des textes des anciens philosophes, comme Aristote par exemple, les textes sur l'amitié, ou d'autres à d'autres époques. L'utopie, c'est d'abord cette idée d'une sorte de fraternité entre les hommes, qui s'est constituée souvent dans les combats du monde ouvrier, ou dans les combats du monde agricole également. C'est quelque chose qui est sans doute un peu sans cesse, comme l'horizon, sans cesse reculé. Et donc, dans l'utopie, il y a toujours une part d'irréalisme ou de choses qui n'arrivera jamais à être atteintes parce qu'on veut justement transcender constamment le réel.
Utopie ?
Ouais.
Ah, il résonne comment pour moi ? Utopie ? Ben oui, pour moi, c'est aussi plus... je tirais plus vers l'écologie aussi, vers la protection de la planète et vivre plus naturellement.
Des framboisiers, des mûriers, des... tous les arbres du monde et on serait heureux.
Ah oui, ça je veux bien croire qu'il y a, oui, ça donne une motivation, ça c'est sûr, d'aller vers quelque chose, de s'inscrire dans une activité, dans une action, vers quelque chose de meilleur, oui.
Vous écoutez Radio Utopia. Radio Utopia, la radio dans vos rêves. Radio Utopia. La radio dans vos rêves.
Les gens adorent un dieu, imaginaire, enfin pas imaginaire parce qu'il ne faut pas blesser les gens, mais invisible. Et ils détruisent le dieu sur lequel ils vivent, quoi. Parce qu'en fait, Dieu, c'est peut-être la terre, quoi. Je veux dire, parce que cette terre, elle est comme magnifique, quoi. Donc, l'utopie, c'est que nous, on soit dessus et on la détruise, quoi. Et en tout cas, on essaie de la copier, mais on n'arrive pas à l'égaler, quoi. À chaque fois, la Terre, de toute façon, elle n'a pas besoin de nous. Donc, nous sommes de passage. Donc, devenons des véritables êtres humains pour pouvoir peut-être réaliser le bonheur. Le fait de marcher, les Indiens disaient ça, on marche sur la peau de notre mère. Quoi. Ne faisons pas des... creusons pas la Terre, quoi. Coupons pas les arbres, ramassons. Soyons des cueilleurs-chasseurs, quoi. Cela suffit pour nos besoins, quoi.
Il est comment ton monde idéal ?
Mon monde, ce serait de me fabriquer une cabane dans les arbres, tout seul, et l'abri.
Et tu vivrais toute la vie ?
Pas toute la vie, mais peut-être, je sais pas.
Et tu... qu'est-ce que tu ferais dans ta cabane ?
Une chose, l'améliorer, dormir dedans, faire ma vie.
Et tu serais tout seul, toujours ?
Peut-être pas, parce que j'ai de meilleurs amis.
Que tu verrais, que tu inviterais dans ta cabane ?
Oui.
Et tu la construirais donc, tout seul,
non,
en haut d'un arbre ?
Peut-être pas tout seul, avec des amis. Mmh.
Et tu contemplerais le ciel, les arbres.
Oui.
Et tu dis que tu te mettrais à l'abri de quoi ?
De la pluie. Les orages, de tout. ou ce qui pourrait être dangereux.
C'est sûr que dans un environnement sauvage et presque sans personne, on peut s'imaginer facilement des histoires, surtout que, à la base, dans les histoires, les forêts sont très présentes. On sait jamais ce qui peut en sortir, ce qui peut arriver. C'est très fantastique.
Épisode 1, La vie grise. Avec la voix d'Ariane von Berendt, générique Claire de Mars, de Basile, musicien en résidence à l'hôtel Experimenta, avec la participation d'Alain Sage, Frédéric et André de l'association Découverte et Patrimoine, de Jean-Mi et Sybille du 5 à 7 de Madrange et des enfants Paul, Soane, Pia et Louise, avec le poème Il de Blaise Sandars, lu par Benoît Lelièvre, et l'histoire non écrite de et par Cécile Desmaisons. Réalisation, Élodie Chamoret, compagnie Les Funambules. Prise de son, Philippe Daudeville, Sam Bazu et Élodie Chamoret. Montage, Thierry Ginesté et Élodie Chamoret. Production, RGB, Radio KOB, la médiathèque intercommunale Vézère, Monédière, Mille Sources et les ateliers Médicis.
La suite au prochain épisode.